Alors, la semaine dernière, on a sauté un petit peu la fin du texte parce que, voilà, je ne voulais pas trop déborder. Donc là, on va revenir un tout petit peu sur le texte où Saül consulte une nécromancienne, donc quelqu'un qui évoque les morts, pour parler avec les morts. Et parfois, certaines personnes se servent de ce texte pour dire que c'est bien. Donc on avait déjà, il y a 2 semaines, dit que voilà, c'est dangereux de faire ce genre de choses. Et on en était donc au moment où Saül, évidemment la femme, elle a peur quand elle voit quelqu'un qui demande à la consulter, parce qu'elle dit, mais attendez, le roi Saül, il l'a éliminé du pays, alors on ne sait pas trop s'il les a fait tuer ou s'il les a chassés, etc., tous les gens qui faisaient de la divination. Donc, moi, j'ai pas... Elle a peur, évidemment, c'est logique, que ce soit un piège. Et là, Saül, il va loin. Le roi Saül, enfin, qui avait justement obéi à la parole de Dieu en éliminant tous ces gens-là, va jusqu'à lui dire, par la vie du Seigneur, aucune faute ne te sera reprochée. Comment il pouvait dire ça? On en était là. Comment est-ce que celui qui avait appliqué avec zèle, peut-être même beaucoup, beaucoup de zèle, la parole de Dieu contre tout ce qui était divination, etc., il peut passer complètement de l'autre côté et garantir à cette femme qu'elle ne sera pas punie, et même le faire en plus au nom du Seigneur. Ça, c'est ahurissant de la part de Saül, et ça nous permet de mesurer jusqu'où il était tombé, vraiment très très bas. Et parce qu'en fait, c'est une façon de se placer au-dessus de Dieu. C'est-à-dire, par la vie du Seigneur, il ne sera rien reproché. C'est moi qui décide, autrement dit, moi je suis le roi. Une fois, je décide de supprimer tous ces gens-là, une autre fois, je décide de leur laisser la vie, pas de soucis, et de ne pas les inquiéter. Et j'avais parlé déjà la dernière fois du fait que quand on désobéit à Dieu, on a souvent l'impression d'être une exception. Et il faut se méfier de ça. Hein, combien j'ai eu de témoignages de gens qui sont rentrés dans une désobéissance à Dieu en pensant « oui, mais moi, je suis une exception ». Chaque fois que vous pensez ça, c'est un feu rouge qui doit s'allumer et dire « attention là, tu es en danger ». Chaque fois qu'on pense « oui, mais pour moi, c'est pas pareil ». Et là, c'est un peu ça. Hein. Non, je te garantis, par la vie du Seigneur, on ne te reprochera rien. C'est une exception, en quelque sorte. Et chaque fois que vous sentez ça, oui, mais bon, je sais que Dieu ne veut pas que je fasse ça, mais je le fais quand même, parce que pour moi, c'est différent. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ça arrive à tout le monde, mais c'est une très bonne tactique du diable et qui marche très, très bien. À partir du moment où on pense qu'on est exception, on s'engage dans des chemins qui ne sont absolument pas de Dieu et qui vont nous poser des tas de problèmes, comme Saül. Ah, il y a un autre point aussi qui était important, parce que là, on est dans un contexte de magie, en fait, hein, de divination. Et il n'hésite pas à dire « par le nom du Seigneur ». Très grave, à cette époque-là, bon, maintenant, c'est peut-être un peu plus courant, mais à cette époque-là, on ne jurait pas, hein, c'était interdit dans la Bible, surtout avec le nom de Dieu. Donc, je voulais juste nous mettre en garde contre les médiums, les spirites et les guérisseurs qui se servent de la Bible, qui se servent du nom de Jésus, tout en trafiquant avec les puissances occultes. C'est courant. Et combien on a entendu de chrétiens dire « oui, mais c'est pas grave, ils ont une Bible sur leur bureau. » Et alors ? Ou bien, il aime Dieu, il a dit que c'est Dieu qui lui avait donné ses dons de guérisseur. Et j'avais cité, je pense qu'on va revenir dessus, acte 19, verset 14, où on voit les fils de Séva qui veulent chasser des démons comme Paul. Et vous voyez ce qui leur est arrivé, c'est quand même assez intéressant. À l'époque, ça ne faisait pas de quartier. C'est acte 19, verset 14. Quelques exorcistes ambulants, des juifs, entreprirent de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus, celui que Paul proclame. Il y avait 7 fils d'un certain Séva, un des grands prêtres juifs qui faisait cela. Donc des gens religieux. L'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais se jeta sur eux, prit l'avantage et les battit tous avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Un petit peu, une petite pointe d'humour. On ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine-là. On ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas jouer avec le nom du Seigneur. Bon, ça demanderait plus d'explications, mais je pense que c'est déjà une bonne mise en garde. Et Jésus l'annonçait déjà dans Matthieu 7, 21-23, passage qu'on cite souvent. Vous avez beau dire Seigneur, Seigneur, mais bon, voilà, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, le fait que quelqu'un invoque le nom du Seigneur, ce n'est pas une preuve. Du coup, je voulais mettre en garde aussi, parce que je sais que c'est un problème. Quand on doit choisir un kiné, un ostéopathe, il y a des précautions à prendre. Malheureusement, ce sont des métiers, chiropracteurs aussi, où, alors là, j'ai pris mes renseignements directement chez des gens qui le pratiquaient et qui reconnaissent que chez certaines personnes, il n'y a pas de souci. Certains chiropracteurs font vraiment une remise en place toute bête, quoi, des os, des articulations. Mais il y en a beaucoup qui pratiquent aussi comme des guérisseurs. Donc vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ? Comment est-ce qu'on fait ? Déjà, il faut s'informer. Et moi, je sais, quand on a dû changer de kiné pour les enfants, j'ai passé du temps à écrémer un peu tous les kinés des environs, poser des questions aux gens, etc. Et prier. Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair chez cette personne, montre-le-moi. Alors Dieu peut vous le montrer de toutes sortes de manières. Quelqu'un va vous le dire. Le gars lui-même, peut-être, parfois, va vous le dire. Ça, c'est quelque chose de très, très chouette. Souvent, c'est notre prière avec André quand on a des doutes sur quelqu'un, comme ça, ostéopathe, kiné, médecin. Seigneur, montre-nous. Alors, ce n'est pas très poli la façon de faire, mais c'est ce qu'on dit. Montre-nous ce qu'il y a dans le ventre. Montre-nous qu'est-ce qu'il y a derrière. Et souvent, les gens vont eux-mêmes, grâce à Dieu, être poussés à vous dire « Ah ben moi, vous savez, ma grand-mère était guérisseuse, j'ai hérité de ses dons », enfin des trucs comme ça. Et vous allez vite être au courant. Mais il faut demander à Dieu. Ça ne se fera pas tout seul. Il y a un réel danger de vous laisser manipuler physiquement, hein, par des gens qui ne sont pas clairs et qui travaillent à moitié avec des sciences occultes. Il y a un danger réel. Oui, c'est par le toucher, évidemment. Ça, c'était tout un autre enseignement. Donc, l'Ancien Testament parlait d'être souillé. Bon, c'était leur façon de dire. Ça veut dire qu'il y a une transmission de quelque chose de pas bon. Et on n'est pas appelé à se laisser manipuler par des gens comme ça. C'est vrai pour les kinés, les ostéopathes, les chiropracteurs, etc. Et puis, un truc qui malheureusement pénètre souvent dans les églises à cause de la méconnaissance des gens pour l'homéopathie. Grâce à Dieu, le gouvernement est sur le point de reconnaître, j'ai lu ça pas très longtemps, que l'homéopathie, c'est un mythe, ça guérit pas grand-chose, et c'est plus dans la tête, etc. Bon, mais malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Et je me souviens toujours, c'était la femme d'Yves Cornaz qui était allée chez un homéopathe et elle a rencontré le Seigneur entre-temps. Et elle avait un gros avantage, c'est qu'elle était très curieuse. Et alors, elle dit qu'il était parti de son cabinet, était allé dans une petite pièce derrière. Elle dit, qu'est-ce qu'il fabrique ? Et elle avait regardé. La porte est entr'ouverte, elle pointait son nez. Et il était avec un pendule. En train de, sur une photo à elle, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, attention, l'homéopathie, déjà scientifiquement, il n'y a rien de prouvé. Il y avait un très bon dossier fait par Michel Barzac il y a des années, qui était ministre de la Santé, que j'avais suivi de près et où elle disait c'était reconnu médicalement, absolument aucun effet dans un certain nombre de maladies digestives. Ils avaient fait l'étude que pour ça. Mais maintenant, ils sont en train d'en faire d'autres. Et je crois que le gouvernement va sortir quelque chose d'ici peu. Et merci Seigneur, parce que beaucoup de médecins, sous prétexte d'homéopathie, ont aussi trafiqué avec des choses qui ne sont pas claires. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais... J'allais dire, je pense pas que ce soit dans la Bible, hein, dans le doute, abstiens-toi. Mais quand on a un doute sur même un médecin, il y a des médecins qui font des sciences occultes à côté. Et on va dire, oh là là, c'est un très bon médecin, il a un bon feeling, il comprend qui vous êtes, etc. Oui, mais à quel prix ? Donc soyons prudents, parce que parfois on peut se mettre dans des situations un peu collantes, là, un petit peu comme David avec ses Philistins, et pour en sortir, c'est pas toujours évident. Donc, plutôt que de prendre des risques, alors là, c'est mon conseil, mais il faut mieux s'abstenir et chercher quelqu'un de correct. Je sais que pour le kiné, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a mis du temps à trouver le bon kiné et je crois qu'on a trouvé le bon kiné. mais ça a pris du temps et on a prié. Seigneur, montre-nous si c'est quelqu'un qui peut nous nuire d'une manière ou d'une autre. Soyez prudents dans ce domaine-là. Il faut l'être. C'est comme ça. Donc voilà. Donc... plutôt s'abstenir que de prendre des risques. Ensuite, l'histoire de Saül, elle pose en fait un gros problème. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore lu, hein, il va consulter une femme qui évoque les morts pour savoir ce qu'il doit faire par rapport à la bataille qui l'attend. Alors, on a vu dans le texte la dernière fois que Samuel apparaît à la femme. Il demande à consulter Samuel qui est mort depuis 2 ans et Samuel apparaît à la femme. Ah, alors les chrétiens sont tous partagés là-dessus, donc je vous donne les différentes options. Et vous savez, comme disait le professeur d'Ancien Testament à Vaud, M. Nicole, je lui avais posé la question, parce que moi je me disais, je vais enseigner ça, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il faut en penser. Et il m'a dit, vous savez, quand la Bible ne nous donne pas une réponse claire, c'est que Dieu ne juge pas utile de le faire. Voilà, donc il m'a dit, soyons humbles. Alors voilà, je vous donne les options. Est-ce que c'est Samuel qui apparaît réellement à la femme? C'est une possibilité. Est-ce que c'est un esprit mauvais qui imite l'apparence de Samuel? Est-ce que c'est une supercherie? Parce que Saül ne voit pas Samuel. Il demande à la femme, d'ailleurs, à un moment, « Que vois-tu? Quelle apparence a-t-il ?» Donc lui, il ne voit rien. Il fait confiance à la femme. Ça pourrait être une supercherie. Et dans tous ces cas, il y a presque autant d'arguments. Si vous regardez le texte, et là, malheureusement, l'étude de texte ne va pas nous apporter de réponse définitive. J'ai lu les 3 arguments bien soutenus par le texte. Donc on n'a pas de réponse. Alors il y a même une 4e, et pour laquelle moi je pencherais, c'est que quel que soit le cas, Dieu va se servir de ces circonstances-là pour parler une dernière fois à Samuel, à Saül. Voilà, moi j'irai pas plus loin. Que ce soit une des 3 options, dans tous les cas, il va parler une dernière fois, et c'est vraiment la dernière fois, puisqu'après il va mourir à la bataille. Et ça nous parle encore de la grâce de Dieu. Saül a désobéi, redésobéi, reconsidéré Dieu comme bof. Et puis, là, il met le comble en passant carrément de l'autre côté. Et Dieu lui parle encore. Ça nous dit quelque chose de l'amour de Dieu. Hein? Quand chaque fois qu'on a une représentation de Dieu avec son bâton qui vous attend au coin du bois pour dire « t'as encore désobéi, tu vas voir ce que tu vas prendre », mais chassons cette représentation-là. C'est clair que si on sort sans parapluie, on sera mouillé. Donc si on fait des bêtises, on risque d'en payer les conséquences. Mais ce n'est pas Dieu qui vous attend au coin du bois pour vous taper dessus. Jamais. Et lui, ce qui vous attend, c'est le verset d'Ésaïe. Il vous attend chaque jour, je tends les bras vers ce peuple rebelle. C'est cette image qu'on doit avoir dans notre cœur. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu est amour, mais c'est sûr qu'il ne va pas nous empêcher de sortir sans parapluie et d'être trempé. S'il pleut, c'est clair. Mais il ne va pas vous attendre pour vous taper dessus. Ça, gardons toujours ça à l'esprit, parce que c'est très très important. Le diable veut nous faire croire que Dieu est méchant. Ça, c'est évidemment cette bonne guerre. Donc pour moi, c'est clair que Dieu se sert, quel que soit le cas, Dieu va se servir de cette femme pour parler une dernière fois à Saül. Et ça, c'est fort. Se servir de quelqu'un qui trafique avec l'ennemi pour dire la vérité. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut les consulter, hein. Mais ça veut dire que là, Dieu va vraiment faire quelque chose d'assez exceptionnel. Il va se servir de ce qu'elle va dire pour faire réfléchir Saül. Et après tout, il faut toujours se rappeler de ce texte qui est unique dans la Bible. Quand Balaam a désobéi à Dieu, désobéi à Dieu, désobéi à Dieu, au travers de qui est-ce que Dieu lui a parlé? À travers d'un âne. C'est mignon les ânes, j'aime bien moi. C'est Jean Brunet qu'on a. Il est trop chou son âne. Mais voilà, et donc s'il peut parler au travers d'un bon petit âne gris... Je ne sais pas s'il y en a qui ont appris la poésie. J'aime l'âne si doux qui marche le long des houes. Et il peut aussi parler au travers de n'importe qui. Mais ce n'est quand même pas la règle. Il n'y a pas d'autres ânes qui ont jamais parlé, je ne crois pas. À part Ian, je ne pense pas qu'on en tire autre chose. Mais parfois, Dieu peut se servir de gens surprenants pour nous parler. Donc, les choses cachées sont à l'éternel, comme dit le verset. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Hein? Mais il y a quand même certains rappels qui vont être donnés à Saül. Premier rappel, à quoi il ressemble, etc., quelle est son apparence? Il est enveloppé dans un manteau. Vous allez me dire, oui, puis alors? Vous vous souvenez? Quand il a désobéi, et que Samuel lui a dit, écoute, c'est fini, il avait attrapé le manteau, ce fameux manteau. Apparemment, ça devait être son costume, hein, il était toujours avec ce manteau. Il a attrapé le manteau de Samuel, et le manteau s'est déchiré. Et Samuel s'est tourné vers lui en dit, de la même façon que tu as déchiré ce manteau, Dieu déchire la royauté de dessus de toi, etc. Bon, Donc le manteau de Samuel, ça parlait à Saül. Et combien de fois Dieu nous parle au travers de choses simples comme ça? Là, il ne l'a pas loupé. Oh, Saül, il a très bien compris. Quand il a dit, c'est un homme enveloppé d'un manteau. Bip, bip, bip. Ah oui, je vais déchirer son manteau ce jour-là. Dieu commençait à parler au cœur de Saül. Et la question que Samuel va poser à Saül, elle est intéressante. Saül va poser à la femme pour que Samuel lui réponde. Elle est intéressante, c'est Samuel, pardon. Oh là, je mélange tout. Samuel qui pose la question, pourquoi m'as-tu troublé? Pourquoi as-tu troublé mon repos? Et c'est intéressant parce que ça devrait le faire réfléchir. Mais qu'est-ce que tu fais là à essayer d'évoquer un mort? Alors, que ce soit supercherie, mauvais esprit, on n'entre pas là-dedans. Mais la question est quand même parlante. Mais où est-ce que tu en es rendu là? Pourquoi est-ce que tu vas jusque-là troubler le repos d'un mort? Et c'est une question qui était là pour le faire réfléchir. Où tu en es, Saül? Et comme toujours, et ça c'est terrible, il va se justifier. Et il va loin en se justifiant. Hein. Je suis dans la détresse, ça c'est vrai. C'est la guerre, c'est vrai aussi. Dieu s'est éloigné de moi. Ah, quelque part, c'est un peu la faute de Dieu. Hein. Tu te rends compte, Samuel? Dieu a osé s'éloigner de moi. C'est pas moi qui me suis éloignée de lui. Non, non, non. Jamais. Et c'est cette façon de tordre. Parce que c'est vrai, Dieu s'est éloigné de lui. Mais pourquoi? Hein? Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est la règle de la Bible. Et là, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui s'est éloigné de moi. Pauvre de moi. Je suis dans la détresse. Dieu s'est éloigné de moi. Ah! Alors, il lui dit, Dieu ne me répond pas. Je l'ai questionné, il ne me répond pas. Oh, quand même, je lui ai demandé. En plus, on avait remarqué ça la dernière fois. Il lui a demandé, Dieu ne lui a pas répondu. Et donc, il va encore se justifier. C'est Dieu qui s'est éloigné de moi. C'est Dieu qui ne me répond pas. Et maintenant, toi, et j'ai bien aimé le toi, fais-moi savoir ce que je dois faire. Parce qu'en fait, Dieu ne veut plus de moi, donc peut-être toi. Alors là, ça ne va pas, parce que l'important, c'est que Dieu veuille bien de nous, c'est que Dieu soit proche de nous. Les hommes, c'est autre chose. Et j'ai évidemment repensé à ce verset, « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Et toute la confiance de Saül, c'était Samuel. C'était un homme, certes un homme exceptionnel, mais c'était quand même un homme. Saül se confie en Samuel. Et... Alors là, on retrouve la nature humaine. C'est plus facile de se confier dans une personne en chair, en os, qu'en Dieu qu'on ne voit pas. Et ça, Dieu en est conscient. Dieu en est conscient, parce que je ne sais plus ce passage qui dit y en a qui ont cru et qui n'ont pas vu, ceux qui viendront donc après Jésus. Et on en est conscient qu'il y a, quelque part, c'est formidable d'arriver à croire sans voir. Mais c'est effectivement plus facile. Et la tendance naturelle de l'être humain, c'est de se confier en un homme. Et pourquoi souvent il y a des grosses déceptions entre chrétiens? Parce qu'on se confie en un être humain qui est faillible, qui a ses défauts, qui a ses difficultés, etc. Et puis, bien un jour, on voit les défauts en face et on est déçu. Et ça nous arrive à tous, toujours. Et c'est dommage, parce que notre confiance, elle est en Dieu. Et c'est vrai que Dieu va se servir d'autres humains pour nous bénir, pour nous aider, pour nous consoler au bon moment. Oh ça, on ne va pas nier ça. Hein. Mais la réalité est là. C'est plus facile de se confier en un être humain qu'en Dieu, parce qu'on le voit. Donc, c'est un sujet de réflexion pour nous. Jésus est venu et il est devenu humain, tout en étant complètement Dieu, complètement humain. Et c'est le seul, la Bible dit, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et il est hors de question qu'un autre chrétien, qu'un pasteur, qu'un prophète, qu'un n'importe quoi, soit un intermédiaire entre moi et Dieu. Ne jamais accepter ça. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. On se moque des catholiques parce que, oh là là, entre Marie, les saints, les ceux qui sont béatifiés, et puis bon, on peut. Et puis après, il y a l'évêque, l'archevêque, etc. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et on se rappelle de tout ça. Pourquoi c'est important de se rappeler de ça? Parce que quand je suis dans la difficulté, il est là. Et alors, j'ai retrouvé ce merveilleux verset qu'on cite souvent, mais je ne sais pas pourquoi il m'a parlé plus, c'est Hébreux 4:15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. On ne peut pas dire, oh oui, mais toi Jésus, tu ne peux pas comprendre parce que tu es Dieu. Et il nous répond, j'ai été homme pendant 33 ans. et j'en ai bien bavé avec les hommes religieux, j'en ai bavé avec les soldats, j'en ai vu plus que vous en verrez jamais dans votre vie. On n'a pas un sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Donc on ne peut pas lui dire, oh oui, mais toi Jésus, tu ne comprends pas, tu es fils de Dieu. Hein? Donc, oh. Parce que c'est un peu ça l'idée. Hein? On va s'adresser à Marie parce que elle, c'est une femme et elle comprend. Il peut compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en toute chose sans commettre de péché. Et la conséquence, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Voyez, approchez-vous du trône de la grâce pour avoir la fessée, pour être corrigé. Non, pour obtenir miséricorde et trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. C'est beau ça, obtenir miséricorde. Donc avoir le pardon, trouver grâce, vous vous souvenez la définition de la grâce, c'est quelque chose qui n'est absolument pas mérité. Donc pas question de venir, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, maintenant tu me donnes ce que je te demande. Non, pour trouver grâce. Seigneur, je viens te demander quelque chose que je ne mérite pas. Et je sais que tu le donnes parce que tu es un Dieu de grâce. Et ça, il est temps qu'on se rappelle de ça. Maintenant, on rentre dans une période où c'est du donnant-donnant. Hein. Je sers Dieu, donc il me doit ça. Je donne, donc Dieu doit me donner. Donc je dois être prospère, etc. Tout un tas de trucs qui courent. Hein. Et la Bible ne dit pas ça. On s'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Pardon, la compréhension. Dans la miséricorde, il y a la compassion, hein, la notion de compassion. Trouver grâce, quelque chose qui n'est pas mérité et pour être secouru dans nos besoins. Voilà, c'est ça notre médiateur. Et c'est formidable. Donc, essayons de résister à la tentation naturelle de se confier dans l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de partenaire de prière, qu'on ne peut pas confier nos sujets de prière. C'est différent. On se soutient, portez les fardeaux les uns des autres, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns aux autres, etc. Ça fait partie de la vie. Mais la confiance absolue, elle est dans notre seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et celui-là ne nous décevra jamais. Il nous corrigera de temps en temps, ce n'est pas très agréable, mais... Il nous aime et il nous donne ces grâces qui ne sont pas méritées. C'est l'évangile, c'est la puissance de l'évangile. Alors, quand on regarde la réponse de Samuel, c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi que les gens se posent beaucoup de questions, parce qu'il n'y a rien à redire. Si c'est un mauvais esprit, si c'est Samuel réellement, si c'est une supercherie, en tout cas. C'est pour ça que je penche pour l'idée simplement de dire que Dieu s'est servi de... ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé, parce que la réponse est très très liée au Seigneur. Cette fois, va apparaître le nom du Seigneur. Alors malheureusement, moi je ne connais pas l'hébreu, mais paraît-il que c'est le nom du Seigneur qui est utilisé comme le sens d'un dieu d'alliance. Tandis que Saül utilise plutôt Elohim, Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout, quoi. Tandis que là, le sens d'alliance. Bon, je ne connais pas l'hébreu, mais je vous répète ce que j'ai lu. Et on s'aperçoit que le Seigneur n'a pas changé de discours dans ce qui lui est dit. Il n'y a pas eu de repentance, donc il ne revient pas sur sa décision. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Quand Dieu dit certaines choses, il va se passer ça et ça. S'il y a repentance, Dieu change d'avis. Si vous voulez faire changer Dieu d'avis sur vous, eh ben, demandez pardon à Dieu. Et Dieu va changer d'avis. Parce qu'il nous trace un chemin... Ah oui, bon, bah, t'as fait ça, t'es sorti sans parapluie, t'as pris des risques, t'as désobéi, t'as fait. Tu t'es justifié, t'as fait enfin, tout ce qu'on peut faire, hein, nous, en tant qu'humains. Mais, ah, si je viens, je dis Seigneur, pardon, je reconnais tout ça, c'est vrai, je te demande pardon. Dieu change. Dieu change d'attitude. Il ne change jamais, sauf devant la repentance, on va dire. Hein. Vous pouvez poser ça comme colle. Est-ce que Dieu change? Non. Jamais? Jamais. Non. Quand on se repent, il change. Donc là, il change pas son discours, il n'y a pas eu de repentance. Il ne revient donc pas sur sa décision. Ensuite, Saül avait dit lui-même que Dieu s'était éloigné de lui, mais là, en consultant la nécromancienne, il est carrément devenu l'adversaire. Il n'est pas seulement loin de Dieu, il est de l'autre côté de la tranchée. Imaginez les guerres de tranchées, 1914-18, là, c'est en 17, je crois. Le gars qui allait dans l'autre camp, ça devenait un ennemi, hein. Il n'y a pas à tortiller. Et Saül se positionne très clairement dans le camp ennemi. Contrairement, vous allez voir David tout à l'heure, qui lui va retourner dans sa ville. Il ne reste pas dans le camp ennemi. Ouf, enfin, je ne vous dis pas la fin quand même. Florence a horreur que je raconte la fin d'un film, donc elle va me gronder après. Et donc, l'allusion au manteau déchiré, on en a parlé. Ça aussi, ça lui parle. Et puis, ça n'a pas changé. Hein. Donc les choses sont restées les mêmes. Et il rappelle la cause. Il va jusqu'à rappeler la cause, au cas où il ne se rappellerait pas. La grande désobéissance de Saül face aux Amalécites, les raisons étaient évidentes, c'était l'argent. C'est sûr qu'en gardant en otage le roi, il pouvait espérer qu'il y aurait une négociation et que, voilà, il pourrait lui laisser la vie sauve moyennant une bonne rançon. C'était courant à l'époque, hein. Peut-être encore maintenant d'ailleurs, mais c'est plus discret. Donc, tout ça, Dieu le sait et il lui rappelle. Enfin, la dernière chose, c'est qu'il va savoir ce qui va se passer. Il va mourir au combat, ses fils aussi. Et là, c'est triste. Jonathan, ça fait mal au cœur, hein. Il a préféré suivre son père et on le comprend. On le comprend. Mais du coup, il a perdu la vie au combat. Au lieu d'être l'adjoint du roi, il était destiné. Jonathan était destiné à travailler avec David. Je crois que c'était le plan de Dieu. Je ne crois pas trop m'avancer. J'ai entendu ça et ça m'a parlé. Je crois qu'il était destiné à aider David et à devenir son second. Et il était prêt à le faire, il l'avait dit, quand tu seras roi, vous vous souvenez ? On avait parlé de ça il y a un an ou deux. Et il va perdre la vie dans la bataille. Ça fait mal au cœur, parce qu'il a fait un mauvais choix. Il a suivi le mauvais cheval, on dirait. Mais c'est son père, c'est pas évident. Ça donne à réfléchir. Et puis Israël aussi va perdre la bataille contre les Philistins. Donc c'est quand même grave. Alors, la réaction de Saül à entendre tout ça, c'est pas très beau, hein, c'est pas très réjouissant. Eh bien, il tombe par terre, boum. Alors, il y avait des raisons, il n'avait pas mangé depuis longtemps, il était extrêmement fatigué, mais il y a le choc. Et il ne dit rien. Et ça aussi, ça me choque, moi, parce que ça me rappelle quelqu'un d'autre qui a fait la même chose. C'est Élie. Quand Dieu lui a dit, tu n'as pas corrigé tes fils, vous savez, le sacrificateur qui travaillait avec Samuel, t'as rien fait. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Que la volonté du Seigneur soit faite, je crois, il a dit. J'accepte. Mais Dieu ne nous demande pas d'être comme ça. Dieu n'est pas un Dieu fataliste, attention, parce que ça, c'est le Dieu de l'islam. Fataliste, fatalisme. Par contre, il y a un exemple positif. De même chose, Dieu parle, c'est le prophète Ésaïe, qui vient voir Ézéchias, c'est quelques années plus tard, hein, et il lui annonce, « Prépare-toi, mets toutes tes affaires en ordre, tu vas mourir. » Des prophètes comme ça, on s'en passerait, hein. Mais bon. Et la réaction d'Ézéchias, moi je l'aime bien. Alors après, on va dire oui, bon, il n'a pas forcément bien utilisé le temps que lui a donné. Dieu lui a donné, c'est vrai. Mais il n'accepte pas. Mais Seigneur, tu ne vas pas me faire ça ? Et il crie, la Bible dit, il s'est tourné vers le mur. Tu sais, comme les petits-enfants quand ils boudent là. Il se tourne vers le mur et il pleure et il crie, Seigneur, non, 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 je te supplie, redonne-moi du temps, je ne suis pas prêt à partir. Et contre toute attente, Dieu parle à Isaïe, il dit, retourne. J'ai rajouté 15 ans de plus à sa vie et il le guérit de sa maladie. Waouh, Dieu est bon. Et pourquoi parfois on accepte les choses ? Moi, c'est quelque chose qui m'a tourné dans la tête. C'était un pasteur qui avait parlé de ça il y a des années. Et j'ai réalisé que parfois on accepte des choses en disant « c'est la vie, c'est mon âge, tout le monde a des allergies. » Enfin voilà, vous pouvez rajouter. Alors je ne juge pas, hein, parce qu'on le fait tous. Hein, on le fait tous. Voilà. Oui, et on accepte, on accepte. Ah oui, c'est vrai que je me souviens avoir prié pour le mari de Marie-France qui avait vraiment l'impression très forte qu'il mourrait à 60 ans. Tu te rappelles, Marie-France ? On avait beaucoup prié pour ça, on n'avait pas accepté. Voilà. Donc attention à ces choses qu'on accepte avec des bonnes raisons. Mon grand-père, mon père, etc. Hein, on a prié. Bon, il a passé largement les 60 ans et il est très actif à la Gerbe. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour le Seigneur. Mais voilà. Donc, faisons attention de ne pas accepter comme ça. Et je crois qu'il y a des moments, ça vaut le coup de faire comme Ézéchias. Bon, après, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. On ne lui impose pas. On a quand même une attitude respectueuse. Mais quand même, pleurer et dire, Seigneur, moi, je ne suis pas prêt. Et là, pour moi, je pense que Saül aurait pu dire, Seigneur, je me suis planté depuis des années. C'était son dernier recours et il ne l'a pas pris. Ça, c'est quand même lamentable. Dieu lui a reparlé là encore, Dieu lui a encore tendu la main et tout ce qu'il trouve à dire, Dieu s'est éloigné de moi, il ne me répond pas, au lieu de dire, mais je sais pourquoi il ne me répond pas et je vais me repentir. Quand il ne lui avait pas répondu au moment de la bataille, on en a parlé la semaine dernière, il avait bien cherché la cause. Il s'est dit, il y a du péché dans le camp. Et là, c'est marrant, mais il ne cherche plus. Il ne cherche plus, il ne bouge pas, il tombe par terre sous le choc, c'est tout. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que par ses désobéissances, en fait, conscientes en plus, Saül va entraîner toute sa famille et tout Israël dans la catastrophe. Et là, je redis ce que je dis tout le temps, je sais que je radote, vous le savez aussi. Il ne faut pas oublier que nos choix individuels atteignent les autres. Et on n'arrête pas dans notre société de dire « c'est mon choix, c'est ma vie, c'est ceci, c'est cela » et ça ne regarde pas les autres. Eh bien, malheureusement, oui. Si je fais des mauvais choix, ça va entraîner les autres. Là, les mauvais choix, ben, c'est ses fils, dont notre cher Jonathan, qui était un homme de Dieu. C'est tout Israël qui va trinquer parce que Saül a fait des mauvais choix. Bon, ils auraient pu le reprendre, hein. Ses courtisans, ses conseillers, tout ça, ils sont responsables aussi. Mais nos choix contaminent les autres. Prenons un choix, j'espère que je vais essayer de prendre des choix où personne ne peut se reconnaître, mais imaginons une famille unie où un des enfants va commettre un vol ou vendre de la drogue. Mais vraiment, quoi. Ben, toute la famille est atteinte, toute la famille est perturbée. Vous imaginez bien, je vous raconte pas, je vous en savais assez en lisant les journaux, en regardant les nouvelles, tout ce que ça va faire. Toute la famille est concernée, les frères et sœurs. Quand vous avez votre frère en prison, ben c'est chaud, hein, votre réputation, elle en prend quand même un coup. Et c'est pas sûr que, voilà, il va pas perdre ses copains, parce que moi je fréquente pas un gars dont le frère est en prison, etc. Moi j'ai connu des familles comme ça, et c'est dur à vivre cette honte d'avoir un membre de sa famille en prison. On va dire, mais c'est sa vie, il faisait ce qu'il voulait, il avait plus de 18 ans. Bah oui, mais la famille, elle trinque. Hein. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai que nos actions ne concernent personne. Hélas, c'est pas vrai, parce qu'on vit en communauté, qu'on le veuille ou non. On peut aller plus loin, c'est le cas de la pollution. Hein, le directeur d'usine qui met pas de filtre à sa cheminée, bon, en France maintenant, il aura des problèmes. Mais bon, je fais ce que je veux, c'est mon usine, ce sont mes biens, c'est mon argent. Bah oui, mais il empoisonne tous les gens autour. Vous voyez, on a une responsabilité envers notre environnement, qu'on le veuille ou non, famille, amis, etc. Et nos bêtises font trinquer les autres. Ça devrait nous faire réfléchir tous. Nos mauvais choix affectent les autres. Et en pratiquant la divination, en plus de ses désobéissances passées, Saül met en danger tout son entourage. Et c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui. Donc ça, on en a déjà parlé. Alors là, ce qui est curieux dans cette histoire, c'est qu'une fois que tout ça c'est fini, il est tombé par terre, etc., elle change complètement d'attitude, la femme. Elle qui était craintive, oh, moi je ne veux pas tomber dans un piège, moi je ne veux pas évoquer les morts pour qu'après j'ai des problèmes. Et puis là, oh là, elle a complètement changé. Quand elle le voit tomber par terre comme ça, alors, c'est quand même choquant. En plus, il faut penser que c'est une femme, on est à une époque où les femmes, bon, elles étaient respectées en Israël, mais quand même. Elle lui dit, écoute, maintenant je t'ai écouté. Mais maintenant, écoute-moi toi aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle veut, elle veut qu'il mange, elle est logique. Il est tombé par terre, un peu d'inanition, plus le choc. Mais elle lui parle sur un autre ton. C'est plus du tout la femme qui a peur. On sent qu'elle parle d'égal à égal. Je t'ai écouté, maintenant toi tu vas m'écouter. Et c'est comme ça avec l'ennemi. Quand vous lui laissez un doigt dans l'engrenage, il va prendre le reste. Et maintenant, attends, je t'ai écouté. Maintenant, tu vas m'écouter. Et maintenant, tu vas faire ce que je te dis. Alors, on va dire, bon, ça partait d'un bon sentiment, mais elle est très autoritaire. Et ce n'est pas courant d'une femme à cette époque. Elle parle comme une égale, donnant-donnant. Et elle l'amène à un repas. Et là, c'est quand même choquant. Alors, choquant, pourquoi ? Parce qu'à notre époque, on mange avec quelqu'un. Bah, et alors, quoi, hein ? On peut manger avec n'importe qui. Par contre, à cette époque-là, on ne partageait pas le pain et le sel, ou le pain et le vin, avec quelqu'un qui n'était pas pur, surtout chez les Juifs. Et il était hors de question qu'un Juif pratiquant mange avec quelqu'un qui faisait de la divination. S'il était sérieux dans sa foi, il n'allait pas partager un repas, parce que le sens du repas pour ces peuples-là, encore aujourd'hui, est très important. C'est un geste d'alliance, le repas. Alors nous, on le sait au niveau de la Sainte-Seine, mais on ne le saura jamais assez que pour eux, encore aujourd'hui, je crois, dans tous ces pays du Moyen-Orient, je pense que Colette peut me confirmer, le repas avec quelqu'un, c'est un geste d'alliance. Du coup, on ne peut pas manger avec n'importe qui. Que nous, oui, parce que pour nous, ça ne représente pas, bon, dans notre civilisation. Et du coup, il va faire une sorte de repas d'alliance. Et elle, voyez jusqu'où elle va, d'ailleurs, la femme. Elle reprend du poil de la bête, elle va jusqu'à sacrifier un veau, ça va prendre quelques heures quand même, le cuisiner, des morceaux, j'imagine, et elle va lui donner à manger, à boire, et quand même le sacrifice du veau, hein, et elle va fabriquer des pains. Sans levain, parce qu'elle n'a pas le temps de les faire monter, évidemment. Donc, le pain sans levain dans la tradition juive, quand même. Hein, le symbole est gros, quoi. Donc, c'est un repas d'alliance qui ressemble fort à celui de la Pâque. Un repas d'alliance, doublement, avec ce roi qui est tombé bien bas. Et ça fait mal de penser qu'il en va jusque-là. Vous savez, une fois qu'on est tombé et qu'on ne veut pas se repentir, c'est comme une balle qui descend la pente, ça va vite. Ça fait mal, quand même. Et elle le traite d'égal à égal. Ça, j'ai trouvé que son autorité était choquante parce que son entourage n'arrivait pas à le convaincre de manger. Je suppose qu'il avait fait un vœu, comme la dernière fois au moment de la bataille. Vous vous souvenez, il aimait bien ce genre de vœu, Saül. Je ne mangerai pas tant que. Voilà. Et tant qu'il n'avait pas sa réponse, il n'avait pas voulu manger. Et là, apparemment, il voulait même retourner à la bataille sans manger. Son entourage n'arrivait pas à le convaincre, mais elle y est arrivée. Et puis l'histoire va se terminer, en fait, par un repas plutôt festif. Et Saül va repartir dans la nuit. Alors là aussi, quand vous avez un texte comme ça dans la Bible, faites attention aux mots qui reviennent. Il est arrivé de nuit, il repart de nuit. C'est un symbole vachement lourd, hein, chargé de sens. Il arrive de nuit, il repart de nuit, il va vers sa mort en plus. Il est dans les ténèbres, matériellement et spirituellement. Ça, c'est une image très claire. En consultant une nécromancienne, il a choisi les ténèbres. Clairement, il a choisi les ténèbres. Il refuse la lumière de Dieu, il refuse la vérité et la justice de Dieu. Il a fait vraiment plus qu'une grosse bêtise. Il a carrément changé de camp. Il a choisi délibérément le monde des ténèbres. Et ce repas qui ressemble à un repas d'alliance, c'est vraiment un repas d'alliance avec les ténèbres. Ah, c'est triste. Il avait si bien commencé. Moi, ça me tue de voir des gens qui ont si bien commencé et qui finissent aussi mal. Ma mère me disait toujours, elle m'en disait des choses, ma mère, elle me disait toujours, regarde la fin des gens. Le début, c'est une chose. Mais regarde comment ils terminent leur vie. Parce que ça, ça parle. Et c'est vrai. Ils terminent vraiment mal. Parce que ces petits défauts qu'il avait au début, il les a laissés augmenter, 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 augmenter. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Dieu interdit à tel point les pratiques occultes, après tout ? Est-ce que c'est pour nous embêter, pour limiter notre liberté, pour nous empêcher de connaître certains domaines spirituels ? Eh bien non, il faut simplement remonter à la Genèse, au Jardin d'Éden. Dieu dit à Adam et Ève, pour le fruit défendu, qui n'est pas une pomme d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est, « Quand vous en mangerez, vous mourrez, c'est clair. » Et Satan passe derrière. Dieu a-t-il vraiment dit ? Et puis il dit « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Et en ce moment, dans beaucoup de milieux évangéliques, c'est quelque chose qui revient. Vous êtes comme des dieux, vous êtes comme Jésus. Vous pouvez faire toutes les choses que Jésus a fait, etc. Et mieux, etc., etc. C'est vrai, mais attention à la façon dont elle le prend. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et Dieu avait raison, et le diable avait l'air d'avoir raison aussi. Parce qu'ils ne sont pas morts, ils ont mangé, ils s'attendaient à tomber raides, ils ne sont pas tombés raides. Parce qu'en fait, Dieu parlait d'une autre mort. La mort par rapport à la vérité, par rapport à la lumière de Dieu, par rapport au péché, etc. Voilà. Et à cause de ça, quand même, on n'est pas éternel. Alors que notre corps, c'est ce que disent les scientifiques, est conçu pour vivre toujours. Et je crois qu'ils ont trouvé un animal récemment. Je crois que c'est une tortue, ou quelque chose, c'est pas une tortue marine, où ils ont, elle a encore gardé ce principe de s'auto-réparer, ce qui fait qu'elle vit très longtemps. Donc je pense que c'est un rappel pour nous, on était constitués pour vivre éternellement. Nos cellules se renouvellent. Enfin, on vit quand même, bon, une centaine d'années maintenant. On était conçus pour. Et là, Dieu a dit, ça suffit. Il s'est certainement dit que si on vivait 1000 ans, on ferait tellement de bêtises en 1000 ans que ce serait une catastrophe. Donc, il fallait mieux limiter les dégâts. Voilà. Donc, la mort, ce jour-là, est entrée dans le monde. Et Satan, en fait, il apporte la mort. Et dans cette histoire de Saül, on voit ça. Il apporte les ténèbres, la mort, le monde occulte, je veux dire caché, hein. Il apporte la mort et la dépression. tout le contraire de la vie, tout le contraire de ce que Jésus est venu nous donner, et en abondance. Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Donc attention à cette idée de nouvelles connaissances, attention à l'occultisme, les sectes, le gnosticisme qui revient dans l'Église en ce moment, qui promet toujours des nouvelles choses, des nouvelles révélations, etc. Soyons toujours prudents que ça correspond bien à la parole de Dieu. Attention aux promesses qui peuvent être dangereuses si elles ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ est simple. Il est abordable pour des enfants. Et vous savez, pour moi, un des trucs qui me convainc d'ailleurs, c'est ça, c'est si quelqu'un est tout seul sur une île déserte avec une Bible, est-ce qu'il peut comprendre et accepter Jésus-Christ dans son cœur? Oui, s'il lit l'Évangile, il peut comprendre. Oh, il comprendra, il ne saura peut-être pas tout ce que nous, on sait, mais il peut. Et même s'il n'a aucune instruction, il peut. Parce que le message de l'Évangile, il est simple, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants. Et les petits-enfants, ils ne cherchent pas midi à 14h. Tu viens ou tu ne viens pas? Tu me le donnes ou tu ne me le donnes pas? Ils sont très... Et il y a ça, il y a cette confiance dans ce que Jésus a fait pour nous. Donc l'évangile de Jésus est simple et clair, et soyons vraiment comme des petits-enfants. Donc on a parlé du problème de, si vous reconnaissez dans votre vie des problèmes occultes, et on avait parlé des conséquences, difficulté à lire la Bible, succession de problèmes, etc. Vous savez qu'il y a eu de l'occultisme chez la tante, la grand-mère, etc. Et que vous pensez que ce n'est pas réglé. Je pense que c'est peut-être plus simple. Moi, ce que je conseille, j'ai vu que dimanche, c'était un peu difficile de s'approcher, et je comprends. Prenez rendez-vous. Et demander la prière de guérison, la prière de délivrance, parce qu'il ne faut pas rester comme ça. Il y a trop de gens qui ont eu enfin, je connais un cas, quelqu'un qui était dans l'église, que la plupart vous n'avez pas connu, mais sa grand-mère avait un don de guérisseuse. Et du coup, c'était une lutte permanente dans sa vie, et ça la déséquilibrait même psychologiquement, parce que c'est quelque chose qui la taraudait un peu. Hein, sa grand-mère, par exemple, pouvait guérir une brûlure... une énorme brûlure, elle touchait, ça guérissait. Donc c'est voilà. Et donc attention à tout ça. S'il y a des choses comme ça dans les familles, si vous sentez que ça vous fait des problèmes, n'hésitez pas à demander la prière. Prenez rendez-vous et puis soit une équipe, soit André, enfin on peut être plusieurs chez les dames aussi aux réunions de dames, on peut prier pour que soyez délivrés de ça et que ça n'ait pas d'influence sur votre vie. Ça on en a parlé la dernière fois. Donc, ce sera peut-être plus facile en privé que devant tout le monde. On va passer à 1 Samuel, chapitre 29. Et pour tout vous dire, quand je suis arrivée sur ce chapitre, j'ai dit à André, ça va aller vite, j'ai rien à dire. J'ai rien trouvé. Je vais juste passer dessus en racontant ce qui s'est passé. Et puis, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si vraiment il y a quelque chose, hein, montre-moi, parce que moi, j'ai vraiment rien du tout. Et bah, j'ai quand même tiré pas mal de choses, donc je suis surprise moi-même. On va lire le texte. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Afek et Israël dressa son camp près de la source qui est à Jisrael. Alors là, attention pour ceux qui font du cinéma, vous allez vite comprendre, ce sont deux scènes parallèles. C'est-à-dire pendant que on voit Saül qui voit l'armée et qui se dit voilà, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même armée, mais ça se passe plus ou moins en même temps. Mais bon, on ne peut pas écrire deux choses en même temps, sur la même ligne, on ne peut pas faire deux... Oui, parfois ils le font avec les vidéos, deux vidéos en même temps, mais si on le faisait, vous auriez en même temps la vidéo de Saül qui regarde son armée et l'armée des Philistins qui est devant David. Donc ce sont les mêmes. Hein. Les princes de la confédération des Philistins avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses hommes... Là, c'est intéressant, avançait à l'arrière-garde avec Achish. Achish, donc, c'est celui chez qui ils étaient réfugiés, un roi philistin. On en parlera tout à l'heure, il est assez curieux, ce bonhomme. Les chefs des Philistins dirent, « Qu'est-ce que ces Hébreux ?» Et Achish répondit au chef des Philistins, il est chaud, Achish, « C'est David qui était au service de Saül, roi d'Israël, il est avec moi depuis des jours et des années. » En fait, c'était 1 an et 4 mois, je crois. « Et je n'ai rien trouvé à lui reprocher. » Depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Mais les chefs des Philistins s'irritèrent, et je comprends, contre Achish et lui dirent, mais attends, renvoie cet homme et qu'il retourne au lieu que tu lui as fixé, qu'il ne descende pas avec nous au combat, afin qu'il ne devienne pas pour nous un adversaire pendant le combat. Et ils avaient raison de s'en inquiéter. Comment cet homme regagnerait-il la faveur de son seigneur, sinon au prix des têtes de nos hommes? ça vous rappelle quelque chose. N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant ? Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Et là, vous voyez, Saül, Dieu lui a parlé au travers d'une nécromancienne. Et là, Dieu va parler au travers de qui ? Des chefs des Philistins. On a un parallélisme entre ces deux histoires qui est incroyable. Parce que vous savez, on s'était posé la question avec Nabal. Oh, Nabal, est-ce qu'il savait vraiment qui était David ? Pourquoi il le traite de serviteur enfui ? Si les Philistins le savaient, pensez bien que Nabal le savait. Achish appela David et lui dit, « Par la vie du Seigneur, tu es un homme droit, et cela me plaît de te voir partir en campagne, forcément il rapportait du butin, et revenir au camp avec moi, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ta venue auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince des Philistins ? Ben mince, mes patrons ils sont pas d'accord. À présent, retourne et va en paix pour ne rien faire qui déplaise au prince de la confédération des Philistins. » David dit à Achish, alors là c'est vraiment bizarre ce qu'il dit, hein. « Mais qu'ai-je fait ? Qu'as-tu trouvé en moi ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi ?» Achish répondit à David, « Je le sais, car tu me plais autant qu'un messager de Dieu, c'est-à-dire un ange. Mais les chefs des Philistins ont dit, il ne montera pas avec nous au combat. À présent, lève-toi de bon matin, toi et tes hommes, et les hommes de ton maître qui sont venus avec toi. » Intéressant ce petit verset, ça prouve que des hommes de Saül avaient rejoint David. Vous voyez comme quoi ils avaient du choix, hein. Quand on dit ils ont suivi David, ils vont mourir avec lui. Mais ils ont suivi Saül, ils vont mourir avec lui, mais il y en a qui avaient fait le choix de suivre David. Il a fait le bon choix. Levez-vous de bon matin et partez dès qu'il fera jour. On n'était pas rassurés quand même à Achish, hein. David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner au pays des Philistins. Donc ils sont retournés dans leur ville qui s'appelle Tziklag. Quant aux Philistins, ils montèrent à Jisraël, ils vont faire la guerre. Et David retourne à Tziklag, 3 jours de marche, ça on en parlera la semaine prochaine. Et ils découvrent quoi ? Leur ville est brûlée. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de biens. Ah ! Alors donc, ce texte-là, il est vraiment en parallèle avec Saül, mais on va voir la différence d'attitude. Vous avez Saül qui s'enfonce, et David qui reprend conscience de qui il est. Et ça, je ne m'attendais pas à ça, mais ça ressort très bien dans le texte. Dieu parle une dernière fois à Saül en se servant de messager plutôt inattendu, hein, comme l'âne de Balaam. Et malheureusement, Saül ne se repent pas. Par contre, David, Dieu va aussi utiliser des messagers inattendus, puisque ce sont les princes des Philistins. Mais il va se servir d'eux pour ramener David à sa véritable identité. Et on a besoin de savoir qui on est. Vous savez, c'est plus facile de ne pas pécher en se disant « Non, je sais qui je suis. Je ne peux pas faire ça. Ça ne correspond pas à mon identité. Ça ne correspond pas à mon appel » que de dire « Je ne vais pas faire ça parce que je n'ai pas le droit, parce que je n'ai pas le droit, parce qu'on me l'a interdit. » C'est plus facile de dire « Ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas à qui je suis vraiment. Hein » Et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et c'est exactement la tactique que Dieu va utiliser avec David. Oh, Dieu, il le connaît bien, David. Hein. Il connaît son cœur, il sait ce qui va marcher. Et je trouve que là, il a appuyé sur tous les bons boutons et ça a marché. Alors donc, la scène est un peu semblable à celle de Saül, scène de guerre. Donc, vous avez d'un côté les Philistins, les troupes d'Israël en face. Bon, ça se comprend tout seul. Et puis, les princes de la Confédération qui avancent avec leurs centaines et leurs milliers. Donc, vous avez la puissance de guerre. Très impressionnant. Et d'autre part, c'est curieux, mais David, il est avec son copain Achish, là, qui est un petit roi philistin. Et puis, ils sont à l'arrière-garde. On peut se poser la question, pourquoi ? Alors là, il y a aussi des questions sans réponse. Est-ce que David, c'était un choix rusé de rester à l'arrière-garde ? Au cas où Israël aurait le dessus, il pourrait prendre l'armée en tenaille. Qui sait ? On ne sait pas. Achish n'est pas très respecté peut-être aussi comme homme de guerre, donc on le laisse à l'arrière-garde. Ça peut aussi être une réponse. Mais les chefs des Philistins, eux, ils sont pleins de logique, ils sont pleins de bon sens. Qu'est-ce que ces Hébreux-là font là ? Alors vous imaginez, en France, on est en guerre contre les Allemands et il y a tout un bataillon allemand qui vient aider les Français. Je pense qu'on aurait eu des doutes. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, ces gens ? Alors c'est là qu'on voit quelque chose, vous savez, c'est dans les temps de guerre qu'on voit clair. Achish est soumis à ces princes-là. Il a beau aimer David, même un peu trop à mon avis, parce que franchement David était rusé, mais ils vont manifester leur autorité sur lui. Les princes, ils sont logiques. On est en guerre contre les Hébreux, il est hors de question d'avoir un bataillon hébreu derrière nous, en plus à l'arrière-garde. Alors, ils sont pas fous non plus, les Philistins. Ils ont de la mémoire. Et nous, chrétiens, quelquefois, on n'en a pas. Il faut avoir de la mémoire. 1 Samuel 14, 21, qu'est-ce qui s'est passé? Victoire des Hébreux sur les Philistins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des mercenaires. Alors, c'était courant à l'époque de s'engager dans une armée en tant que mercenaire. C'est une façon de gagner sa vie, hein. Ils payaient sur le butin, bien sûr. Mais les soldats hébreux avaient changé de camp et ils étaient partis se battre du côté des Philistins. Imaginez, ça existait même là. Donc 1 Samuel 14, 21, on en avait déjà parlé. Et ils avaient vécu ça. Et au moment où ils avaient vu que les Hébreux gagnaient la victoire, tous les Hébreux qui s'étaient engagés comme mercenaires chez les Philistins, eh ben, ils se sont retournés contre les Philistins. Et donc, ils ont été écrasés, les Philistins. Donc ils se souvenaient de ça, les princes, hein. On ne va pas leur faire le coup deux fois. Ils ont raison. Mais Achish va préciser qui sont ces gens, mais à sa manière. C'est David. Et là, il va grossement gaffer en disant, il était au service de Saül, roi d'Israël. Ah bah, raison de plus. Mais bon, pour lui, ça lui semble correct. Ce ne sont pas des simples mercenaires hébreux qui vendent leur service aux plus offrants. Hein. Non, il était au service du roi Saül. Et là, on peut faire le rapprochement avec Saül au chapitre précédent. Dans les deux cas, Dieu va se servir des ennemis du peuple de Dieu. Spirituel, dans le cas de Saül, politique et militaire, et aussi spirituel avec les Philistins. Pour rappeler à l'un comme à l'autre qui ils sont. Hein, vous vous souvenez, la femme, elle avait dit « Tu es Saül !» Le roi qui avait fait tuer les... Et là, ils vont lui rappeler « David est serviteur du roi d'Israël. » Tu es serviteur du roi d'Israël. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un simple mercenaire avec ta troupe. Tu es le serviteur du roi d'Israël. Tu n'es pas un Philistin. Tu n'es pas un Philistin. Tu ne peux pas être reconnu comme Philistin, même si tu es ami avec eux. Ça nous parle aussi, ça. Dans le monde, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous n'êtes pas du monde. Par contre, vous devez vivre dans le monde. Dieu ne nous a jamais demandé d'aller vivre dans un monastère. Bon, pour ceux pour qui c'est, je ne critique pas, mais... Globalement, on est appelé à être dans le monde. Et c'est ça qui n'est pas marrant dans la vie chrétienne. C'est qu'on n'est pas du monde, mais il faut vivre dedans. Aimer les gens, les servir, les bénir, tout en étant différent. Ça, c'est pas facile. Mais en tant qu'ambassadeur, c'est déjà plus encourageant. Et les princes vont plus loin. Ils se mettent en colère contre Achish et ils exigent le renvoi de David. Alors là, ça rigole pas. Vous savez, les Philistins, ils ne savent pas... Hein. Ils n'hésitaient pas à prendre les grands moyens. Donc, ils lui disent, écoute, il risque de devenir un adversaire une fois que le combat sera engagé. Il pense à tout. Hein. Il peut vouloir regagner la faveur de son roi en ramenant quelques têtes de Philistins. J'ai bien aimé. Et ça leur rappelle des souvenirs. Hein. Goliath, c'était pas si loin que ça. Hein. David était jeune homme, mais ils doivent s'en rappeler que leur Goliath, il a perdu la tête. Et encore pire, il rappelle les mots de la chanson, vous avez remarqué, qui a déclenché la jalousie de Saül. Ah là, c'est l'électrochoc, hein. David, réveille-toi. Saül a gagné la victoire sur 1000 et lui sur 10 000. Tu es celui qui remporte sur 10 000. Tu es celui qui a pris la tête de Goliath. Tout ça, c'est caché dans le texte. Et je pense que quand Achish lui a rapporté tout ça, j'imagine David électrochoc sur électrochoc. Tu es serviteur du roi d'Israël. Tu es celui qui a ramené la tête de Goliath. Tu es celui de qui on a chanté. Tu es serviteur du roi. Ouh, tu es l'identité. C'est important de connaître notre identité. Et quand Achish lui rapporte tout ça, moi j'imagine David, ça devait trembler à l'intérieur. Parce qu'il, depuis 1 an et 4 mois, il vivait cool, il faisait ses petites razzias, il ramenait du butin, il se sentait en sécurité, ben, il s'était laissé aller. Après tout, les Philistins, ils sont sympas. Bien sûr. Tu es David, tu n'appartiens pas aux Philistins. Et aussi important, il faut qu'il s'en aille. Tu le renvoies là où tu lui as donné un territoire. Renvoie-le dans son territoire. Ça veut dire aussi, c'est pas là que je t'ai appelé. David, c'est pas là que tu es appelé. Ils le sentent, les princes des Philistins. Il n'est pas appelé à rester dans cet environnement. David n'était pas appelé à être comme Achish ou avec Achish, un vassal des princes philistins. Et là, ça ressort, parce que les princes philistins, ils imposent leur loi. Et quelque part, ce qu'entend David dans son cœur, c'est « Tu n'es pas appelé à être un vassal des philistins. On n'est pas appelé à être soumis aux dictates du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Et même s'il s'est réfugié chez eux parce qu'il était menacé de mort, par Saül et par sa cour, ça ne change rien à son identité. C'est pas parce que par moment on a des moments de déprime, on a des moments où on va pas bien et on prend des décisions idiotes. Il a pris une décision idiote. C'est pas pour ça qu'on a changé d'identité. Et ça, c'est rassurant. Dieu nous a donné une identité. Et même si on fait des bêtises, ce n'est pas notre identité. C'est pas parce que je suis tombée que je suis un déchet de l'humanité. Ça ne change pas notre identité. Et Dieu est merveilleux. Il lui rappelle son identité, son appel. Et Dieu va lui montrer au travers des princes des Philistins qui il est, sa mémoire est rafraîchie. Et je crois que c'est important. Dieu parle au travers de ces hommes sur son identité, son appel, comme il a parlé au travers de la nécromancienne à Saül. Seulement Saül n'a pas bougé, il s'est contenté de tomber par terre. David, il obéit, puisqu'il aurait pu insister, il a essayé d'insister. Et d'ailleurs, on ne comprend pas très bien. Qu'as-tu trouvé en moi, ton serviteur, depuis que je suis auprès de toi, pour que je n'aille pas combattre avec toi? Était-ce de la ruse? C'est pas impossible. Il ne voulait pas montrer qu'il était trop content d'être débarrassé, parce qu'il devait quand même avoir un sacré problème de conscience. Je vais devoir tuer mes concitoyens alors que j'ai été loin pour être leur roi. Ah, c'est quand même un problème. Comment est-ce que Dieu allait le tirer de là? Ou il trahissait, il se faisait tuer. Des centaines et des milliers contre 600, c'était gagné d'avance. Ou alors, il devait s'associer et tuer ses concitoyens. Vous imaginez ça? Et comment se sortir de ce guépier dans lequel il s'était fourré? Et il y a des fois où nous aussi, on se trouve dans des guépiers. Parce qu'on est humain, parce qu'on fait des mauvais choix. Alors on ne perd pas notre identité. Et il n'y a qu'une personne qui peut nous sortir du guépier. C'est Jésus. Seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, rempli de grâce. Si on se repent, on dit « Seigneur, je me suis mis dans un guépier. Si je fais l'action A, ça va mal aller. Et si je fais l'action B, ça va mal aller aussi. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans un guépier. » Et ça nous arrive. Ça nous arrive parfois de se trouver pris dans des... On n'avait pas prévu. On a pris la mauvaise décision et puis maintenant, on ne sait plus s'en sortir. Quoi que je fasse, je fais des bêtises. Quoi que je fasse, ça va me coûter des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien... Le Seigneur nous sort de là. Et comment Dieu va le sortir? Ça, c'est l'humour de Dieu. Je trouve que Dieu est fantastique. Il a un humour. Qui va le sortir de ce guépier? Les princes des Philistins. C'est incroyable. C'est incroyable, mais là, il va s'en sortir. Et il lui dit, retourne chez toi. Et heureusement, dites donc, quand ils disent, il faut qu'il retourne chez lui tout de suite. Imaginez ce qui serait arrivé s'il avait attendu. S'il avait tergiversé. Si les princes avaient dit « Bon, tu peux rester avec nous, mais tu ne bats pas avec nous, tu gardes les bagages, ou je sais pas. » Non, ils ont été catégoriques. Renvoie-le dans sa ville. Heureusement, parce que s'il avait tardé, il n'aurait jamais récupéré ses femmes, ses enfants, enfin les femmes de tous ses collègues aussi, tous ses amis. Hein. Et voilà. Il n'aurait jamais récupéré, parce que les Amalécites les avaient fait prisonniers. Ils étaient plus gentils que lui, hein, parce que lui, quand il allait contre les Amalécites ou contre d'autres peuplades, il tuait tout le monde. Les Amalécites, ils ont fait des prisonniers. Petite leçon à David, d'ailleurs, en passant. Et il va pouvoir les récupérer parce qu'il s'est passé que 3 jours. Attention. Et il va falloir lui trouver un autre lieu d'habitation puisque sa ville est brûlée. Dieu a pensé à tout. Vous savez, parfois, quand Dieu veut pas qu'on fasse quelque chose, il prend les grands moyens. Il ne voulait plus qu'il reste là. Ça suffit maintenant. Tu as passé assez de temps avec ces Philistins-là. Maintenant, tu dois trouver un autre lieu. Forcément, la ville est brûlée, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et il va se trouver un autre lieu. On en parlera plus tard, mais on va terminer là-dessus. Il va se trouver un autre lieu, et ce lieu, c'est Hébron, en Juda. Retour dans sa tribu. Et j'avance un tout petit peu dans l'histoire, mais quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il avait compris beaucoup de choses après cette expérience avec les princes des Philistins. Et quand il va remporter la bataille pour récupérer... les femmes, les enfants, les biens, etc. Vous savez ce qu'il va faire, la première chose? Il va offrir des cadeaux à toutes les familles de la tribu de Juda. C'était fini de donner son butin, une partie de son butin, à Achish, roi des Philistins. Il est sorti du guépier et maintenant, il va marcher avec Dieu. Il a retrouvé son identité, sa vraie identité. Et je crois que si parfois... dans notre vie, on sent qu'on a pris des mauvaises décisions, on s'est mis dans un guépier. Crions à Dieu. Et il n'y a que la repentance. Dire, Seigneur, pardon, j'ai fait les mauvaises décisions, je reconnais, je te demande pardon, c'est fini, je veux prendre un autre chemin. Et là, ça va être un chemin de victoire et de bénédiction. Hein? Et alors que là, ça l'emmenait vraiment dans des gros problèmes. Là, maintenant, il va rentrer dans un chemin de victoire et de bénédiction. Et c'est pareil pour nous. Quand Dieu nous parle, écoutons aussi. Ça, j'avais fait un petit passage là-dessus. Vous savez, parfois, Dieu peut vous parler au travers de gens vraiment improbables. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Pour des petites choses ou pour des plus grandes. Des non-chrétiens, même des gens hostiles à la foi qui m'ont dit des choses. Et je me suis dit, ben disons, là, Dieu me parle. Oui, ça arrive. Dieu nous parle par toutes sortes de moyens. Et écoutons. Alors, quelquefois, on va dire, c'est des collègues, c'est des amis, ou c'est le patron, ou c'est quelqu'un que j'aime pas. Et même parfois, quelqu'un qui nous aime pas va pouvoir nous dire des choses qui vont nous faire réfléchir et nous permettre de sortir du guépier. Et ça, c'est merveilleux. Dieu se sert, même de nos ennemis. C'était le cas ici, pour nous ramener dans sa volonté. Et écoutons quand les gens nous disent quelque chose. Parce que parfois on vous dit, ouais, mais ils sont méchants, etc. Oui, bon, on fait la part des choses, méchanceté, jalousie ou n'importe quoi. Mais il faut quand même se dire, Seigneur, est-ce quelque chose de vrai là-dedans? Et j'ai eu une conversation avec quelqu'un, il y a quelque temps, qui me disait, il me racontait ses difficultés. Et j'ai beaucoup aimé sa réaction. C'est, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qui est dit? J'ai dit, waouh! Pourtant, il souffrait. Et je me suis dit, ça, c'est chrétien, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai? Est-ce quelque chose que je peux changer dans ce qu'on me dit? Et David a écouté, il a obéi au prince des Philistins, vous rendez compte? Et ça l'a ramené à son identité et à son appel. Et là, on va rentrer dans une bien meilleure période. Ouh, les choses dures sont passées, merci Seigneur.